Matière à penser, Antoine Garapon.
Matière à penser qui achève cette semaine consacrée aux djihadistes en se posant la question de la persistance de l'avenir du terrorisme en compagnie de Marc Sejman. Nous avons pu mesurer tout au long de cette semaine les racines du djihadisme. On a pu se faire une idée de la variété et peut-être aussi de l'évolutivité de ce phénomène. Et on l'a vu notamment à propos d'un autre djihadisme africain, Boko Haram. Et donc, après avoir tenté de comprendre l'émergence, il faut s'interroger sur la persistance du terrorisme. La question n'est pas uniquement spéculative, car elle commande des politiques à long terme qui doivent être menées contre ce fléau qui affecte toutes nos sociétés. Et nous conduirons ces interrogations en compagnie de Marc Sejman. Marc Sejman est psychiatre, c'est un expert internationalement reconnu sur ces questions, qui est l'auteur de nombreux ouvrages, dont certains ont été traduits en français. Je pense notamment « Le vrai visage des terroristes ». Psychologie et sociologie des acteurs du djihad, ça remonte à 2005, donc c'est déjà et ça a déjà un certain temps. Et puis il vient de publier un livre sur les attentats de Londres et entre deux un livre très important, Turning to Political Violence. Donc ça pose la question du passage à l'acte. Bonsoir Marc Sejman.
Bonsoir Antoine Garapon.
Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter, est-ce que vous pourriez expliquer aux auditeurs votre parcours qui est un peu atypique ?
Je parle français parce que j'ai grandi en France. Mmh. Je suis venu ici à l'âge de 4 ans comme réfugié politique avec mes parents. Je suis parti aux États-Unis à l'âge de 14 ans et j'ai fait le reste de mes études aux États-Unis. J'ai fait deux doctorats en même temps, en sociologie politique et en médecine, parce que je m'intéressais aux maladies tropiques. Donc je pensais que la moitié était politique, la moitié était médecine. Et j'avais donc joint la marine américaine, parce qu'ils avaient des hôpitaux pour ces maladies-là. Et quand j'étais au Japon, il y avait les boat people du Cambodge, qui est, et c'est donc un génocide.
Et ça vous a rappelé quelque chose ?
Ah oui, ça. J'ai grandi avec le génocide. Mes parents ont survécu la Shoah, donc c'était quelque chose de très important pour moi. Et c'était presque incroyable, avec tous les traités qu'on a contre le génocide, que ça puisse se reproduire encore. Donc, les seules personnes qui faisaient quelque chose là-dessus étaient la CIA. Et donc, après mon engagement dans la marine américaine, j'ai joint la CIA. Et après mon entraînement et un autre poste autre part, j'ai eu la chance d'être affecté d'abord au Afghan Task Force à Washington, où j'ai inauguré la relation directe avec les Moudjahidines pour les aider. Et après, on m'a envoyé au Pakistan pour diriger cette guerre. Pendant 2 ans et demi.
Du côté, j'ose pas dire des terroristes, mais du côté des Moudjahidines, qui étaient considérés par les Russes comme des terroristes, bien sûr.
Absolument. Et d'ailleurs, certaines personnes avec lesquelles on a travaillé, pendant ce temps-là, on les appelait Freedom Fighters. et maintenant, on les appelle terroristes. Et eux font exactement la même chose qu'ils ont fait depuis 40 ans, c'est-à-dire se battre contre l'invasion étrangère de leur terre. Sauf que dans les années 80, c'était les Soviétiques. Maintenant, c'est nous.
Voilà, c'est les Américains.
Et donc, eux, ils n'ont pas changé. C'est nous qui ont changé.
Ah, oui.
Et on a donc changé de... On les a appelés maintenant des terroristes.
On a connu ça en France, Marc Sejman, avec les terroristes ou la résistance qui sont devenus ensuite nos gouvernants. Hein, c'est un peu
vos résistants.
Oui, c'est ça, des résistants. Et ensuite ils sont arrivés aux affaires. Mais ça a dû être une expérience extraordinaire de travailler avec des gens qui se battent, mais qui ne peuvent pas être dans une situation d'affrontement d'armée à armée, qui sont nécessairement dans un conflit asymétrique.
C'est ça. Donc, c'était complètement une insurrection. Et on essayait un peu de décourager les Soviétiques pour qu'ils rentrent chez eux.
Oui, et puis après, vous avez continué à travailler. Vous avez commencé des études de psychiatrie ensuite.
C'est ça. Alors, je suis retourné en médecine après 91. J'ai fait un internat en psychiatrie légiste. C'était ma spécialité. Donc, j'avais interviewé beaucoup de meurtriers qui ont déjà avaient été condamnés pour la peine de mort. Donc, j'ai témoigné pour la défense. Parce qu'aux États-Unis, nos procès sont divisés en deux. Il y a la condamnation et après, il y a la punition. Et donc, je témoignais normalement dans la moitié de la punition contre la peine de mort.
Oui. Alors, vous avez commencé à entendre des prisonniers, ce qui vous a donné cette formidable expérience, parce que vous entendiez ces prisonniers qui étaient des droits communs, mais aujourd'hui, vous continuez d'entendre des prisonniers qui sont dans des affaires de terrorisme.
Exact.
Et vous le faites toujours pour la défense, Marc Chesman.
C'est ça, parce que aux États-Unis, il n'y a que la défense qui a accès à l'accusé. Le prosecuteur n'a pas accès à l'accusé. Le FBI, de temps en temps, quand ils arrêtent des personnes, leur demande si jamais ils peuvent les interviewer. Quelques-uns disent oui. Aux États-Unis, on a le droit de dire non. Et si on dit non, c'est terminé. Ils n'ont plus accès à l'accusé. Alors moi, qui est assez intéressé aux accusés, parce que je suis intéressé au processus de penser comment ils arrivent au passage à l'acte, je dois donc avoir accès à l'accusé pour mon travail.
C'est ça, c'est-à-dire ce qui vous intéresse, Marc Chesman, dans votre parcours, c'est peut-être une ligne, c'est de comprendre les hommes, c'est de comprendre la violence à partir des hommes. Des femmes aussi, on en parlera des femmes, à partir de la nature humaine.
C'est ça, exactement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la violence politique, donc... qu'est-ce qui amène les personnes, les êtres humains à faire ça. Alors mon parcours ne s'est pas terminé dans les années 90 parce que en fin de compte il y a eu le 11 septembre 2001
et après qui a été un coup de tonnerre terrible aux États-Unis et dans surtout, le monde entier.
Surtout pour moi parce que j'étais l'officier traitant de Ahmed Shah Massoud qui est mort deux jours avant. Alors j'étais déjà assez déprimé
parce que vous l'avez très bien connu Massoud.
Oui.
Et vous avez travaillé avec lui.
C'est ça.
Et d'ailleurs, vous m'avez dit en préparant cette émission que vous avez travaillé avec lui en français.
C'est ça, c'est ça. C'est exactement ça. Parce que comme je ne connais pas le perse ni le pashto, je parlais avec les grands commandants et je parlais ou en français ou en anglais ou en allemand.
C'est ça. Alors, c'est intéressant. Et donc, c'est cette personne qui a été une figure majeure de la lutte, de la résistance contre les soviétiques est assassinée. Vous comprenez pas tout de suite que c'est un signe avant-coureur d'un autre attentat?
Oui, je suis assez sceptique que les deux sont reliés, en fin de compte.
Vous n'êtes pas certain?
Non, je suis pas certain, parce que comme j'ai essayé d'encourager ces gens-là de faire la guerre contre les soviétiques, si deux attaques arrivaient dans un intervalle de deux mois, pour moi, c'était simultané. Parce qu'il faut voir comment les choses se passent là-bas, c'est-à-dire que les gens marchent à pied, ça dure des semaines pour aller jusqu'à sa cible. De là, je crois que les deux tueurs ont dû rencontrer Massoud, donc ils ont négocié avec des gens. Donc j'ai l'impression que c'était deux attaques différentes, mais qui n'étaient pas reliées.
Ils n'auraient pas pu se coordonner, c'est trop incertain les rencontres en Afghanistan.
Exactement, exactement. Oui. Et même maintenant,
Ça continue. C'était pas un choc culturel pour vous, Marc Chesman. Vous venez de Pologne, vous avez vécu en France, vous habitez aux États-Unis, vous vous retrouvez dans un monde qui nous paraît, nous, assez archaïque, assez médiéval, avec des gens qui se promènent en mule, qui marchent à pied dans des montagnes, avec des grands turbans. Est-ce que ça vous demandait pas un effort culturel de compréhension?
Non, j'ai grandi 3 ans à Brooklyn et il me rappelait beaucoup les Juifs racides et un peu la même chose, la même façon de penser. C'était assez intéressant. C'était ça le choc culturel pour moi, de voir la similarité entre les Juifs racidiques et ces Afghans intégristes.
Oui, mais ce que quand même le problème, et à vous lire d'ailleurs, à lire ce que vous avez dit, vous montrez quelque chose qui est un point de départ capital, qui pour moi a été capital en tout cas, en tous les cas, c'est de dire les gens qui sont séparés socialement, les gens qui peuvent être radicaux, les gens tentés par la violence, ce sont des millions de gens, ce sont des millions de personnes, malheureusement. Ceux qui passent à l'acte pour un acte, une violence indiscriminée, pourrait-on dire, ou pour un acte terroriste, c'est une infime minorité, Marc Chesman.
Absolument, absolument. Le chiffre à l'ouest est à peu près de 2 à 5 pour 100 millions par an. Alors, vous voyez, c'est une infime minorité comparée à la criminalité commune, de droit commun, qui est beaucoup plus fréquente.
Bien sûr, où on pourrait comparer, alors c'est là où on sort le domaine du crime, mais par exemple, les overdoses par opiacés aux États-Unis, qui est une véritable plaie aujourd'hui.
Il y a eu 70 000 morts l'année dernière.
70 000 morts?
70 000 morts d'overdose d'opiates, oui.
Donc ça relativise, mais c'est extrêmement intéressant, je crois, pour réfléchir sur le terrorisme. Et je rappelle que vous êtes médecin, donc vous êtes formé aux sciences sociales qui aiment des choses evidence-based, comme vous dites, c'est-à-dire des choses qui sont basées sur des chiffres, sur des statistiques, où on sait de quoi l'on parle. Et là, comment est-ce qu'on peut savoir de quoi l'on parle lorsque ça concerne 2 personnes sur 100 millions?
Oui, donc c'est pour ça que ce qui m'intéresse, c'est le processus du passage à l'acte. Et il y a un élément énorme de chance là-dedans. Et bien sûr, en sciences sociales, on ne parle presque jamais de la chance.
Ça veut dire que c'est le hasard, quoi.
C'est exactement le hasard.
C'est la mauvaise rencontre.
C'est-à-dire, ça dépend qui est-ce qu'on rencontre, ça dépend des opportunités qu'un copain dit « je t'invite, on fait ça » Et donc, cette personne le fait. Mais nous, en êtres humains, on est des machines à faire du sens aux événements. Et donc, on essaye de comprendre et on met du sens là où, beaucoup de fois, il n'y a pas de sens.
Il n'y a pas de sens, mais on ne peut pas vivre. Nous, on est fait comme ça. On ne peut pas vivre sans mettre du sens. Et on ne peut pas vivre sans relation. Parce que vous avez des notions que vous avez élaborées dans une théorie très... très très complète et très complexe aussi du passage à l'acte, mais c'est cette idée de la bande de potes violents. Hein, c'est comme ça que vous traduisez,
oui,
la bande de potes violents.
C'est comme ça que je suis devenu connu dans...
Alors c'est quoi une bande de potes violents, Marc Chesman?
La bande de potes violents, c'était plutôt par contraste à ce que les gens pensaient avant, que les opérations terroristes étaient planifiées comme une armée où il y avait un chef qui dirigeait tout, qui prenait, et il avait un staff qui faisait tous les détails et donc c'était synchronisé et ainsi de suite.
C'est aussi ça, je vous arrête tout de suite parce que nous on a connu le 13 novembre ou le 11 septembre, c'est aussi ça, Marc Chesman.
Absolument, il peut y avoir ça. Bon, c'est ça mais d'une façon un peu moindre. Il y a aussi beaucoup d'éléments de chance et d'ineptitude d'ailleurs dans le 13 novembre, les 3 kamikazes au stade de France ont fait pratiquement très peu de victimes.
Très peu de victimes.
Alors que la plupart des victimes étaient bien sûr dans le Bataclan, qui était un endroit fermé. Comment les gens sont venus, c'était un peu... ça dépendait quand elles allaient se rencontrer en Belgique. Et de là, ils sont tous venus de Belgique. Mais tout ça, c'était pas planifié à l'heure, à la seconde précise, comme ce sont des opérations militaires.
Oui. Mais est-ce que le problème, on va revenir sur la bande de potes violents, mais est-ce que une des difficultés, c'est que les militaires ont peut-être un coup de retard. Vous avez travaillé à la CIA, et ça concerne d'ailleurs probablement aussi la CIA, c'est-à-dire que les militaires aiment bien trouver des organigrammes, des plans, des donneurs d'ordre, des circuits pour faire passer les armes, etc. Or ça, ce que vous dites, c'est que ça n'existe plus beaucoup.
Ça peut exister dans des grandes organisations terroristes qui durent assez longtemps, c'est-à-dire qui ont eu le temps de s'organiser, mais la plupart des opérations terroristes, c'est beaucoup plus informel que ça, donc beaucoup plus difficile à détecter pour la police, les forces de l'ordre. Et on voit ça très bien. Si jamais c'était aussi organisé que les militaires, c'est très facile à les empêcher parce que on les décapite, on enlève la tête et puis c'est terminé.
Bah, c'est un petit peu d'ailleurs ce qu'on a voulu faire avec Daesh. On a réussi d'ailleurs. On a réussi à couper la base territoriale. C'est pas pour autant qu'on a coupé l'organisation.
Si on a coupé l'organisation, mais c'est pas pour autant qu'on n'inspire pas les jeunes à faire des actes, à passer aux actes, s'inspirant de Daesh et pour Daesh. C'est-à-dire que Daesh ne sait pas les actes, donc ils font pas partie de l'organisation, mais ils le font au nom de l'organisation.
Mais, alors, c'est là où vous introduisez une autre notion qui est extrêmement intéressante, me semble-t-il, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Vous parlez d'une communauté imaginée de revendications politiques, communauté imaginée.
C'est ça. Alors là, j'ai pris mon inspiration de Benedict Anderson, qui décrit une nation comme une communauté imaginée, parce que comme on ne connaît pas tous les membres de sa nation, on s'imagine qu'on fait partie de cette communauté. On le voit très bien, par exemple, quand la France gagne la Coupe du Monde de football. Le monde est français. Mais autrement, quand il y a des élections, il y a beaucoup plus de divisions.
Oui,
les gens se pensent conservateurs, libéraux, ainsi de suite, quoi.
Oui, oui.
Mais une communauté imaginée, c'est plus difficile à détecter parce que les liens sont imaginés. Et oui. Donc, si on fait ce qu'on appelle en anglais des social network analysis, les analyses de réseau, c'est très difficile à détecter parce que les liens sont encore imaginés.
Ben oui, bien sûr. Et les réseaux sociaux aident, mais n'ont pas résolu le problème. Ils ont d'autant moins résolu le problème que votre analyse se fonde sur un mot que tout le monde comprend en français, mais en fait, que tout le monde croit comprendre, parce qu'en fait, il ne le comprend pas, c'est la notion d'identité sociale, Marc Sejman.
C'est ça, Antoine Garapon. Vous êtes français, et pour un français, la notion d'identité, c'est toujours par rapport à des valeurs abstraites. Alors, vous êtes français, vous êtes l'héritier des Lumières, vous êtes...
L'enfant des cathédrales.
C'est ça, vous êtes... héritier des droits de l'homme, liberté, égalité, fraternité. Maintenant, beaucoup ajoutent laïcité. Mais en fin de compte, c'est pas du tout de ça que moi je parle. Je parle d'un sentiment d'appartenance à un groupe. Et c'est tout. Alors, on se sent français quand l'équipe de France gagne la coupe. Mais on se dit pas on est les héritiers des Lumières, on est simplement français et c'est notre équipe qui a gagné et donc on appartient à ce groupe qui a gagné la coupe.
C'est-à-dire intéressant parce qu'en prison, la réaction en prison des personnes incarcérées pour des faits de terrorisme islamiste, ils disaient pourquoi le Stade de France ? On comprend, les cafés, d'accord, c'est haram, ils ont bu de l'alcool, la musique c'est haram, etc. Mais pourquoi le
match de foot ? Peut-être le nom ?
Oui, peut-être le nom, et puis aussi, le symbole pour précisément. Mais spontanément, ils ne comprenaient pas précisément parce que c'est quelque chose qui, pour eux, correspond beaucoup plus à leur identité concrète. Celles qui vivent, ils soutiennent une équipe de foot.
Oui, Oui, et donc ils appartiennent à ce groupe, surtout c'était l'Allemagne, ils jouaient contre l'Allemagne ce soir-là, je crois.
Oui, c'est ça, ils jouaient contre l'Allemagne en plus.
Oui.
Il se passe tout un phénomène, on va pas rentrer dans le détail parce que c'est tout le travail que vous faites, mais il y a aussi le sentiment que les moyens légaux de se battre sont pas efficaces. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va plus, il y a quelque chose de une sorte de désillusionnement par rapport aux institutions.
C'est ça. Alors, ça commence pas comme ça. En fin de compte, il y a un conflit entre deux groupes. Le groupe auquel on sent qu'on appartient et un autre groupe, la plupart du temps, c'est l'État. Et premièrement, il y a une escalade de ce conflit avec une surenchère rhétorique. Et là, on s'aperçoit que les gens sont complètement désillusionnés ou découragés que l'État va les écouter au point de vue de leurs revendications. Et là, beaucoup abandonnent la lutte. Et c'est pour ça qu'il y a très peu de terroristes, parce que la grande majorité sur 1999 abandonnent, et les plus loyaux, les plus dévoués continue.
Mais il faut insister là-dessus pour nos auditeurs, Marc Sejman, c'est-à-dire que l'immense majorité, l'écrasante majorité de gens qui ont tous les critères, qui cochent toutes les cases pour devenir terroristes, eux, 99% décrochent.
99,9999%.
D'accord. Oui.
Et bien sûr, ils décrochent. Alors pourquoi très peu se portent volontaires pour être soldats? Parce que c'est vraiment un processus de mobilisation pour défendre sa communauté qui est attaquée, y croit, par l'État ou par d'autres groupes. Nous, aux États-Unis, l'État n'a pas le monopole de la violence légitime, donc il y a des milices aux États-Unis. Oui. Alors, il y a beaucoup de bagarres entre différentes milices. Mais ici, en France, l'État a plus ou moins le monopole de la violence légitime.
On est très weberien de ce côté-là.
Exactement, vous êtes très weberien. Et donc là, d'abord, les cibles sont les agents de l'État, et puis après, on est vraiment découragé, on se dit que la société élue l'État, et ça devient plus indiscriminé avec le temps.
Alors, je reviens sur votre idée de communauté imaginée, parce qu'elle explique pourquoi un bon tiers de nos djihadistes sont des Français de souche, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun contact culturel avec le monde musulman. Sauf, ils se sont identifiés, c'est la même chose aux États-Unis, dans une proportion moindre. Ils se sont identifiés à la cause de l'islam.
C'est ça, c'est exactement ça. Donc, ils s'imaginent qu'ils font partie de ce groupe.
De la néo-umma.
De la néo-umma, comme mon ami Farhad Khosrokhavar l'appelle.
Matière à penser, Antoine Garapon.
Matière à penser, toujours avec Marc Sejman et aussi avec Tchaïkovski et le concerto pour violon avec Ivry Gitlis au violon que vous avez choisi, Marc Sejman.
Oui, oui.
Je me fais un peu vieux, donc ça me rappelle ma jeunesse. Ça me rappelle mon camarade de chambre quand j'étais à l'université à Harvard. Lui était violoniste. Et donc, il jouait ça, il répétait ça constamment pendant toute une année, et je l'ai intégré en ma personne.
Oui. Et ben voilà, et ben écoutez, vous la faites partager aux auditeurs, comme vous faites partager vos réflexions, et qui sont très intéressantes parce que elles viennent de quelqu'un qui connaît extrêmement bien la France, les auditeurs l'entendent, mais qui a aussi un parcours dans la lutte active contre le terrorisme et qui cherche à comprendre sur comment est-ce que des gens, une toute petite partie de personnes, d'hommes et de femmes, peuvent se mobiliser, et se mobiliser, on l'a vu un peu avec Romain Huet cette semaine, se mobilisent pour la guerre. On est dans des sociétés pacifiées, on est dans une société dans laquelle la guerre est loin, est lointaine, et tout d'un coup, ils ont envie de rentrer en guerre contre nous-mêmes, contre eux-mêmes, par certains côtés, Marc Sejman.
C'est ça. Alors, ils se sentent en guerre. C'est pas qu'ils ont envie d'entrer en guerre. Ils se sentent en guerre, et donc, ils pensent que leur communauté est attaquée, donc leur communauté est en guerre contre l'État et contre la société, et eux se portent volontaires pour défendre cette communauté. Donc, ils deviennent soldats, moujahides, soldat, moujahidine en pluriel. Mm-hmm. Et c'est vrai depuis 240 ans. Alors, la première terroriste que
Pourquoi 240 ans, oui.
Parce que le terrorisme moderne a vraiment commencé à la Révolution française. Alors, la première terroriste, pour moi, c'était Charlotte Corday.
Mais non, parce que Charlotte Corday, pour moi, c'est un assassinat politique. Il n'y a pas ce côté indiscriminé de l'attentat. L'attentat anarchiste est indiscriminé. C'est le café, la Gare du Nord, par exemple, en 1893, je crois.
Gare Saint-Lazare.
Mais alors, Charlotte Corday, qu'est-ce qui différencie Marc Sejman? Un assassinat politique, ça, c'est un régicide, ça existe depuis toujours, de la violence indiscriminée qui caractérise le terrorisme.
En fin de compte, c'est une évolution. En un siècle, on est parti de Charlotte Corday, donc beaucoup plus ciblée, à un régime plus indiscriminé. Et vous avez raison, en fin de compte, c'était Émile Henry qui a lancé sa bombe au café de Paris, je crois,
oui,
à Gare Saint-Lazare, et qui disait « si je tue un bourgeois, je me trompe pas de cible », ou quelque chose comme ça.
Et
oui, mais c'était ça, une évolution. Avant, les gens étaient un peu comme Camus dans Les Justes. Ils avortaient leur opération si jamais il y avait des innocents, comme des enfants qui étaient dans la charrette
l'archiduc. Mais donc, il y avait cette idée qu'on voulait une cible politique, une directe ou indirecte, qui symbolise, mais on s'attaquait pas aux civils.
Pas encore, mais avec le temps, c'est venu. Ça a mis presque un siècle, et après 1892, on commence à voir cette indiscrimination, ce que les Russes appelaient des attentats sans motif.
Ah oui, c'était l'expression russe.
Oui.
Mais alors, ce qui est quand même, vous rappelez dans votre dernier livre, moi j'ai appris des tas de choses, notamment sur Jacob. Je ne connaissais pas l'importance qu'il a, parce que vous avez
Arsène
exhumé.
Lupin.
Oui, c'est ça.
C'est le modèle d'Arsène Lupin.
C'est ça, qui fait toute une organisation de cambriolage, mais on cambriole les riches.
C'est ça.
Donc
c'est
il y a toujours cette dimension de classe sociale, alors que aujourd'hui c'est plus compliqué que le terrorisme contemporain, Marc Sejman.
Oui, mais il y a toujours cette idée, il fait partie de notre groupe ou il fait pas partie de notre groupe.
Ça.
Alors vous disiez classe sociale, c'est une lecture de la société qui dure depuis déjà deux siècles maintenant, cette analyse de la société, mais c'est plus général que ça, c'est notre groupe ou c'est pas notre groupe. Alors là, maintenant, avec les djihadistes, c'est plus du tout les classes sociales, c'est les vrais musulmans, c'est-à-dire la néo-Oumma, Et parce que les autres musulmans, ils pensent que des mécréants, sont pas vraiment des musulmans, et donc sont des cibles légitimes pour eux. Pas simplement les non-musulmans, mais aussi les musulmans qui ne font pas partie de la Néouma.
Ça veut dire que le terrorisme nous dit quelque chose sur ce que nous sommes devenus, sur l'archipel français, comme dit le dernier livre de Fourquet, c'est-à-dire on est dans une logique d'une « them and us », eux et nous, quoi. Eux et nous.
C'est ça, c'est exactement ça, mais ça a toujours été comme ça. Charlotte Corday aussi, c'était eux et nous. Elle était une fédérée, et donc elle voulait vraiment frapper les montagnards, et donc le symbole montagnard qui était Mara.
Mara, bien sûr, qui était... Mais alors, vous montrez également dans votre étude, et comme vous avez été sur le terrain, vous le savez, vous êtes très bien placé pour le savoir, c'est l'escalade. La violence, c'est une interaction. La violence, on n'est jamais violent tout seul. On appelle une réaction, et on rentre dans une relation, dans une interaction terroriste. Et c'est là où c'est à la fois très important et où ça nous fait rentrer tous en scène, et notamment les pouvoirs publics.
C'est ça, c'est exactement ça. J'ai trouvé que le facteur le plus important, c'était l'interaction entre les deux communautés. Si jamais il y a une désescalade, ça diminue la température de la relation entre les deux. Et beaucoup de fois, les gens remontent la température et ça amène à la violence.
Oui,
donc,
oui.
Ce qu'il faut faire, c'est essayer de diminuer cette température. C'est une désescalade.
Une désescalade, c'est facile à dire autour d'un micro, Marc Sejman. Mais,
oui,
mais quand l'opinion est absolument chauffée à blanc, elle est remontée, elle est choquée, en état de choc, parce que c'est ce que visent quand même les terroristes, elle est en état de choc devant la catastrophe des vies interrompues, des innocents sur les trottoirs, ça appelle une réaction, et ça appelle une surréaction, parce que à vrai dire, l'État ne peut pas bien réagir, il peut pas réagir à hauteur de cette agression, parce que par définition, on est dans une relation asymétrique, on est dans une relation
absolument.
Qui n'a pas d'équivalence.
Absolument. Et bien sûr, dans les pays démocratiques, il y a vraiment une poussée de l'électorat à faire quelque chose. Pas un politique ne peut survivre s'il ne fait rien, c'est
exactement,
simplement.
Exactement.
Et donc, oui, la dynamique pousse à plus de violence de l'État envers cette communauté, et de cette communauté par représailles contre l'État et ceux qui élisent l'État, donc contre la société aussi.
Alors, vous avez repris du service après septembre 2001 aux États-Unis,
oui.
Parce qu'on vous a demandé de mettre votre savoir au service de l'administration du pays, ce qui devait être embarrassant pour vous, parce que ce à quoi on a assisté, c'est plutôt, je dis pas une escalade, mais à une surréaction de la part de l'administration américaine et du président Bush, qui, de mon point de vue, qui était peut-être inéluctable.
Oui, alors moi aussi, je me suis presque porté volontaire, c'est-à-dire j'étais pas mécontent que on me fasse appel et que je voulais, parce que j'ai vécu à New York, je connais très bien New York. D'ailleurs, quelques mois avant les tours, j'étais dans l'hôtel qui a basculé aussi avec les tours. Il y avait un Marriott entre les deux tours qui aussi a été détruit. Et j'étais là avec mon fils et on regardait les tours. C'était presque comme ces monuments romains qui ont l'air d'être là d'une façon éternelle.
C'est ça.
Et quand elles ont disparu, c'était incroyable. Donc oui, moi aussi j'étais choqué. Alors, j'ai joint le Secret Service pour protéger le président. Après, la police new-yorkaise m'a demandé de venir pendant un an et quelques pour essayer de protéger la population de New York. Et après ça, après le massacre de Fort Hood par le Major Hassan.
Vous pouvez rappeler à nos auditeurs ce que c'était le massacre de Fort Hood?
Oui, c'était un psychiatre américain, un commandant de l'armée américaine qui était envoyé en Afghanistan. Il voulait pas, et donc par refus, il a tué 13 soldats. Injured.
Mais il a blessé.
Il a blessé 37 autres. C'était en novembre, le 5 novembre 2009.
Mais ça montre bien, c'est une question que je voulais vous poser, parce que nous, en Europe, on a été, ou en Europe dans le monde, mais on est proche géographiquement, c'est Brevik. Brevik, c'est-à-dire, c'est l'île d'Utøya en Norvège. Bon, un jeune qui, bon, pour des idéologies suprémacistes blanches, mais dans le fond, quand même, c'est un paquet de problèmes personnels, surtout, tue 70 jeunes. C'est-à-dire que, est-ce que c'est nécessairement politique? Est-ce que, dans l'affaire, dans l'attentat de Nice, dans un certain nombre d'autres attentats, on l'a vu avec Ariel Planex cette semaine, il y a quand même une problématique personnelle. Le major Hassan, c'était son problème aussi, qui fait payer aux autres. Est-ce qu'il n'y a pas dans la violence indiscriminée quelque chose de notre époque qui n'existait pas avant, là je parle sous votre contrôle, Marc Sejman, une sorte de colère terrible et criminelle contre le monde et contre les autres?
Non, je ne trouve pas ça quand j'interviewe les gens. Et pourtant, j'ai même interviewé un kamikaze qui n'a pas réussi. Mm-hmm. Simplement, le détonateur a sauté, mais pas la bombe, le main charge, comme on dit en anglais.
Oui, oui. La
charge principale n'a pas explosé. Donc, et je vois pas tellement de colère. C'est plutôt représailles. Le Major Hassan, lui, était complètement coincé. C'est-à-dire qu'il était contre ce que les États-Unis faisaient dans les pays du Moyen-Orient, dans les pays musulmans. Il voulait être muté en Corée, par exemple, où il n'avait pas affaire. Et là, on lui a dit, ah, non, on a payé pour tes études. Tu vas aller en Afghanistan. Et il refusait, il ne pouvait pas, il était coincé. Donc, il fallait qu'il fasse quelque chose. Et d'ailleurs, il l'a fait 3 jours avant qu'il devait partir en Afghanistan.
Donc, acculé, comme s'il pouvait... Absolument. Il ne voyait pas d'autre solution dans sa tête.
C'est ça, exactement. Pour lui, c'était cette solution. Et le kamikaze que j'ai interviewé, d'ailleurs, le mois dernier, c'était un peu ça aussi.
Oui, mais c'est-à-dire qu'il voulait se faire sauter parce qu'il n'y avait pas d'autre solution.
Il avait un problème psychologique. Ah oui. Il était déprimé, mais je peux pas en dire beaucoup
d'accord,
plus parce
sûr.
Que le procès n'a pas encore
absolument,
eu lieu.
Absolument, et vous êtes tenu. Mais alors, vous êtes tenu au secret, mais vous n'êtes pas tenu à vous taire sur les comparaisons entre la France et les États-Unis, Marc Sejman, parce que vous avez cet avantage d'entendre des terroristes aux États-Unis, qui sont pas réunis dans les mêmes prisons, donc c'est tout à fait différent de la situation française.
Oui, absolument, Antoine Garapon. Je viens juste de revenir de Saint-Maur hier,
et
à Fleury Mérogis, que j'ai pas encore vu, mais
une prochaine fois.
quand je parle aux gens, je m'aperçois la densité de ces personnes. Alors, ils s'organisent maintenant en prison, et nous, nos terroristes, quand ils sont arrêtés, pour eux, la guerre est finie. C'est-à-dire, ils ont fait leur truc.
Ils ont désarmé, ils ont déposé les armes.
Ils ont déposé les armes, c'est-à-dire, la guerre est finie, et donc, ils sont démobilisés. Nos taux de récidive, on a arrêté 650 personnes. On a condamné 650 personnes pour des charges terroristes. On en a arrêté beaucoup plus, mais ils étaient innocentes. Et sur ces 650, on en a relâché 375 parce qu'ils ont purgé leur peine et donc.
Donc c'était pas des affaires si graves que ça s'ils sont sortis.
Oui, c'était pour ce qu'on appelle, nous, material support.
D'accord.
Ce que vous
soutien,
n'avez
oui,
pas.
C'est une forme de complicité, oui.
C'est ça, c'est une sorte de complicité. Et, ou alors des velléités pour aller en Syrie et tout ça. Bon, ils sortent maintenant. Et, leur taux de récidive est de 1,6%.
Très faible.
Très faible, alors que vous savez que les criminels en commun, c'est presque 50%.
C'est ça.
Donc, vous voyez que pour eux, ils sont démobilisés. En France, c'est le contraire. En France, comme vous avez ils ont une quarantaine, je crois, à Saint-Maur, et ils ont plus d'une centaine à Fleury.
Ah oui, on compte à 500 en tout en France, dans les prisons françaises.
C'est ça. Et eux, ils pensent, la façon dont ils pensent qu'ils sont prisonniers de guerre. C'est-à-dire la guerre n'est pas terminée en France.
Tout à fait.
Et c'est le grand problème, c'est que comment les démobiliser quand eux, ils pensent qu'ils sont toujours soldats et qu'ils vont se battre.
Tout à fait. Et c'est même très intéressant qu'ils pensent cela, parce que je crois que c'est peut-être aussi un tabou de la société française dans la guerre d'Algérie, dans la relation entre la France et le Maghreb, mais surtout l'Algérie. Comme si, alors que cette guerre est terminée.
Il y a beaucoup de Marocains maintenant.
Ah oui, aussi.
Qui ont été arrêtés. C'est-à-dire qu'ils étaient Algériens jusqu'à à peu près 2010, mais maintenant il y a pas mal de Marocains qui ont joint les Algériens, et bien sûr il y a pas mal de Français convertis, Français de souche convertis.
Oui, le problème qu'on a, Marc Sejman, c'est que le Maghreb, il est en face de la France, et de l'autre côté de la Méditerranée, et puis on a une partie de la commune, de notre culture commune, et bien sûr de notre histoire, une histoire très conflictuelle, mais une histoire quand même qui nous a rapprochés.
Bien sûr. C'est pas les musulmans aux États-Unis, ça a toujours été et les Indiens et les Noirs. Il y a eu l'esclavage noir et bien sûr, il y a eu le génocide indien au 19e siècle.
C'est ça. Mais malheureusement aujourd'hui, il n'y a plus de problème indien dans les prisons américaines. Il y a peut-être un problème noir qui n'est pas résolu. Mais donc, quel conseil, Marc Sejman, quel conseil vous donneriez à la France en termes politiques sur la solution à long terme? Vous ne semblez pas croire, vous qui êtes un homme qui avez travaillé pour la CIA et pour la police new-yorkaise, vous ne semblez pas tellement croire à la solution répressive.
Non. C'est-à-dire la solution répressive marche très bien quand il y a très peu de personnes. Mais une fois qu'on a dépassé un seuil, un nombre, un chiffre, bon, s'il y a une douzaine de personnes, on peut tous les arrêter ou tuer. Mais s'il y en a des milliers, c'est beaucoup plus difficile parce que le combat continue, la campagne violente continue. Et de nouveau, volontaires se présentent pour faire partie de cette communauté imaginée. Et donc, la répression ne marche pas là. Et là, il faut vraiment un système de désescalade et ce qu'on appelle aux États-Unis, procedural justice.
Ah oui, ça c'est très important. Il faut que vous nous expliquiez ça parce que cette idée n'est pas intraduisible en français. Ça veut dire que il faut que le fonctionnement judiciaire et des institutions offrent le spectacle d'une impartialité et d'une loyauté totale.
Une équitabilité totale.
Une équité totale, c'est ça, oui.
C'est ça, oui.
Et donc, ça veut dire que c'est par des institutions justes et par une politique inclusive à long terme qu'on trouvera les solutions au terrorisme.
C'est ça, c'est exactement. Alors, il faut que tous les Français ont le même sentiment d'appartenance à la France que quand l'équipe de football française gagne la Coupe du Monde. Ils se sentent tous français, ils sont pas musulmans, ils sont pas catholiques, ils sont français. Et il faut créer, et ça c'est le défi des politiques en France, c'est de créer ce sentiment d'appartenance à cette grande communauté inclusive, non exclusive, mais inclusive, que nous par exemple on a aux États-Unis.
Qui vous semble plus fort aux États-Unis?
Beaucoup plus, oui.
Oui. Alors que il y a des communautés et qu'en France nous n'avons pas ces communautés, mais ce sentiment il est peut-être trop implicite ou peut-être qu'il faudrait terminer dans nos têtes une guerre contre l'Algérie et contre d'une manière plus générale la
colonisation. Oui, c'est-à-dire que revenant à l'idée d'identité, il faut une identité inclusif plutôt qu'exclusif. Mais si une identité est formée sur des valeurs qui excluent des personnes, on a des problèmes à l'intérieur de sa société.
Eh bien, merci beaucoup, Marc Sejman. J'espère que nos politiques vous entendront.
Merci, Antoine Garapon.
Matière à penser, Marc Sejman, Bernard Laniel, Sandrine Chaperon, Catherine Denet, Anne-Pascale Desvigne, Antoine Garapon. Et la semaine prochaine, je laisserai mon siège à Frédéric Worms pour parler de l'amour auquel il consacrera une semaine qui est peut-être plus doux que le terrorisme. À bientôt.